Notre perception est partiale. Notre attention est limitée. Notre mémoire est infidèle. Pourtant, nous avons tous une vision du monde cohérente. Nous pouvons en remercier notre cerveau, qui met en œuvre des tours, des mécanismes, qui nous permettent d'appréhender le monde multiple, complexe, et de l'avoir en partage. Le cerveau, foyer de la connaissance, fonctionne par approximation. Il découle de cela que notre connaissance des choses et du monde est toujours relative. Le cerveau crée des modèles mentaux pour absolument tout. Nos relations amicales et amoureuses, notre conception du travail, nos opinions politiques. Souvent, à notre insu, le cerveau nous raconte des histoires qui nous aident à mieux naviguer dans le monde. Il peut reconstituer de toutes pièces des souvenirs d'enfance, nous préparer à un danger potentiel pour que nous puissions sauver notre peau si jamais ce danger s'avérait bien réel, nous faire comprendre qu'un tas de cire devant nous est en fait une bougie fondue. Il peut tout aussi bien nous berner avec une illusion d'optique ou un tour de magie, nous faire tomber dans le piège des fake news, aussi appelé infox, ou dans celui de l'illusion de connaissance. Au cours de ce voyage au centre du cerveau, nous étudierons les mécanismes et les modes de fonctionnement de cet organe, à la fois si mystérieux et extraordinaire, pour découvrir quand, pourquoi et comment il nous joue des tours. Il se joue des tours. Partie 1. Comment perçoit-on le monde ? Chapitre 1. Voyons-nous vraiment le monde avec nos yeux ? Comme tous les grands voyageurs, j'ai vu plus que je me souviens, et je me souviens de plus que j'ai vu. Benjamin Disraeli, homme d'État britannique. Nous avons tendance à penser que nous voyons le monde avec nos yeux, que nous l'entendons avec nos oreilles, et c'est normal. Notre perception passe d'abord par nos sens. Et pourtant, c'est avant tout avec notre cerveau que nous appréhendons le monde. Évidemment, les cinq sens et le cerveau fonctionnent ensemble pour que l'être humain puisse percevoir le monde. Mais nos yeux, nos oreilles, notre langue et notre peau sont en fait des récepteurs qui vont transformer les signaux que nous renvoie le monde extérieur, optique, sonore, olfactif, en signaux électriques. Ce sont ces milliers de signaux électriques que notre cerveau va traiter, qu'il va filtrer et qui vont nous permettre de reconstruire le monde mentalement. Le cerveau humain face à l'ambiguïté du monde. Analysons une expérience que chacun de nous a faite, l'illusion d'optique. Ce terme est trompeur, car il laisse penser que ce sont nos yeux qui nous trompent. Or, c'est souvent notre cerveau qui est victime de l'illusion. Nous avons tous déjà vu ces images très graphiques, avec par exemple un personnage dessiné sans détail spécifique, telle une silhouette toute noire et accoudée à une balustrade. Une ambiguïté se présente alors. La silhouette peut nous sembler être de dos ou de face. Parce que la silhouette n'offre pas de détails, notre cerveau l'interprétera au hasard comme étant de dos ou de face. Maintenant, si sur une autre image, le même personnage présente plus de détails et est dessiné clairement comme étant de face, en revenant à la première image où le personnage n'était qu'une silhouette, vous l'interpréterez comme étant de face. De même, si on vous montre une image avec le personnage dessiné avec plus de détails et cette fois de dos, la première silhouette noire vous semblera être de dos quand vous la regarderez à nouveau. Vous pourrez ainsi faire des allers-retours en observant les trois images et voir la silhouette noire se transformer, et ce, en fonction de l'image que vous avez vue juste avant. Par la suite, si vous ne regardez que la première image avec la silhouette, vous pourrez modifier votre perception en la voyant tantôt de face, tantôt de dos, parce qu'une fois que vous avez déjà vu les deux variantes, les deux situations deviennent une possibilité pour votre cerveau, qui peut désormais passer de l'une à l'autre. Entrons maintenant dans le détail de cette illusion pour bien comprendre comment cette image affecte le cerveau humain. Les images du personnage détaillé sont les versions stables de l'image initiale. Il n'existe qu'une seule façon de les interpréter. L'image première, qui présentait une simple silhouette, en revanche, est ambiguë, car elle porte en elle plusieurs façons d'être vue, deux en l'occurrence. Elle est donc une image bistable. Face à elle, notre cerveau ne possède pas suffisamment d'informations pour résoudre l'ambiguïté et l'interpréter d'une seule et unique manière. Si en revanche, vous fixez pendant quelques secondes l'une ou l'autre des versions stables de l'image initiale, votre cerveau va créer un a priori visuel et lorsque vous regarderez de nouveau l'image initiale, l'image bistable, vous réduirez son ambiguïté et verrez dans la silhouette noire soit une personne de face, soit une personne de dos. Le cerveau a besoin d'interpréter les signaux que lui renvoie le monde de façon à s'en créer une représentation cohérente et stable. C'est ce qu'on appelle la réduction de l'ambiguïté. Dès lors qu'on lui refuse la stabilité en lui présentant des images ambiguës, bistables ou multistables, il opère un choix parmi les différentes options que le réel contient. Imaginez cette fois que vous regardez la première image, à savoir l'image bistable, en compagnie d'un ami. Aucun de vous n'a encore vu les versions stables de l'image. Chacun de vous réduit l'ambiguïté à sa façon. La silhouette vous apparaît comme étant de dos, alors que votre ami la voit de face. Vous êtes en fait tous les deux en train de regarder la même image, mais vous voyez deux choses différentes. Si vous en discutez ensemble, vous n'allez pas vous entendre, car votre perception n'est pas la même. Et pourtant, chacun de vous est intimement persuadé de voir l'image telle qu'elle est. Vous êtes même incapable de voir ce que l'autre voit. Une illusion bistable a défrayé la chronique en 2015 sur les réseaux sociaux, posant de façon éclatante la question de savoir si nous avions vraiment le même monde en partage. Une utilisatrice de Tumblr, du nom de Swiked, avait posté une photo d'une robe à empiècement en dentelle, suivie de ce commentaire « Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche et or ou bleue et noire? Mes amis et moi ne pouvons nous mettre d'accord et ça nous fait totalement flipper. » Suite à cela, l'image est devenue virale sur Internet. Et le monde entier, divisé, a débattu plusieurs jours de la couleur de la robe. Si à l'époque vous avez pris part au débat, vous avez peut-être pensé que la moitié du monde qui ne voyait pas la robe de la même couleur que vous avait tort. Mais vous comprenez à présent qu'aucun des deux groupes n'avait tort ou raison. Il y avait simplement deux façons pour le cerveau humain de réduire l'ambiguïté. Ce que nous apprennent ces deux exemples d'illusions bistables est que l'être humain a tendance à faire une confiance aveugle à sa perception, au point de la considérer comme partagée par tout le monde. Lorsqu'il filtre, traite et interprète les stimuli que le monde lui renvoie, le cerveau construit une vision globale du monde en faisant sans cesse, sans s'en apercevoir, des suppositions sur la manière dont il fonctionne. Il opère sans cesse des réductions de l'ambiguïté, et pas seulement dans le cas d'illusions bistables, afin de nous présenter un réel stable et cohérent. Il existe dans le champ de vision un point aveugle, qui correspond à l'endroit par lequel le nerf optique sort de la rétine vers le cerveau. Ce point ne contient pas de récepteur de lumière, contrairement au reste de la rétine. Nous pourrions supposer qu'il devrait y avoir un trou dans notre champ de vision, à l'endroit où la lumière n'est pas reçue par la rétine. Toutefois, dans la vie de tous les jours, notre champ visuel est complet, car nous avons deux yeux. Mais si nous étions borgnes, ou que nous fermions simplement un œil, il en irait tout autrement. Par exemple, lorsqu'on vous présente une feuille avec, sur une même ligne, une croix à gauche et un point à droite, si vous fermez l'œil gauche et approchez la page de votre visage, le point disparaîtra. Cela est dû au fait qu'il se situe exactement sur le point aveugle de votre rétine, et votre cerveau va estimer que la page entière est blanche. Il va donc vous donner une fausse interprétation du réel. Si maintenant vous entourez le point d'une bande grise et renouvelez l'expérience, dès que le point noir tombera sur votre point aveugle, la barre grise va vous sembler continue. Votre cerveau voit du gris avant et après le point, il remplit le vide avec la même chose. Ce que les tours de magie nous apprennent. Les tours de magie nous fascinent. S'ils sont universels, c'est parce qu'ils jouent avec les mécanismes de notre cerveau, et notamment celui que nous venons de mettre à jour, la réduction de l'ambiguïté. C'est le cas par exemple du tour de la pièce de monnaie. Le magicien attrape une pièce entre le pouce et l'index de sa main droite et la place lentement dans sa paume gauche avant de fermer le poing qu'il dirige ensuite vers vous en vous demandant de souffler dessus. Puis il ouvre sa main de façon théâtrale, la pièce a disparu comme par magie. Et il ne s'arrête pas là, il s'ingénie alors à faire réapparaître la pièce derrière votre oreille ou dans votre poche. En fait, la pièce n'a jamais été déposée dans sa main gauche. Le magicien a effectué ce qu'on appelle un palming, de l'anglais palm, paume de la main. Il fait comme si il déposait la pièce dans sa paume gauche alors qu'il la gardait dans sa paume droite. Tout cela s'effectue très doucement car ce ne sont pas les yeux que le magicien essaye de tromper, mais le cerveau et l'interprétation logique que celui-ci fera du déplacement des objets. L'être humain se fie à sa perception du monde. Il pense avoir vu la pièce passer d'une main à l'autre. Il ne va donc pas comprendre comment elle peut se retrouver derrière son oreille.